édition spéciale.
Michael Ponge.
Il y a eu un mouvement de panique, vraiment, il y a tout le monde qui s'est levé de la terrasse, on a tous commencé à courir en bas. Il y a eu deux ou trois tirs en fait à ce moment-là. Non, j'ai pas eu le temps de regarder la scène, de voir comment ça s'est passé, mais à part suivre le mouvement, courir vers le bas et rejoindre les policiers, je sais pas comment ça s'est passé.
Un mouvement de panique hier soir, peu avant 21h sur les Champs-Élysées, des coups de feu retentissent, les policiers sont visés, l'un d'eux est tué, deux autres blessés. La plus célèbre artère de Paris désertée, bouclée, et très vite la revendication qui tombe, celle de l'organisation État islamique. Venant ainsi bouleverser la fin de la campagne pour la présidentielle jusqu'à 13h30 sur RFI. Nous revenons sur les dernières informations concernant ces événements. Et comme à chaque attentat, nous allons tenter de comprendre comment et pourquoi. Franck Alexandre, on vous retrouve un point d'abord ensemble sur ce que l'on sait à cette heure de l'enquête.
Oui, il y a d'abord eu cette confusion sur l'identité du terroriste, Michael, car l'attaque a été presque aussitôt revendiquée hier soir par le groupe État islamique. L'auteur de l'attaque est Abou Youssef le Belge, dit le communiqué de l'EI. À ce moment-là, cette revendication pose question puisque la carte grise retrouvée dans le véhicule de l'agresseur indique une autre identité, celle de Karim Cherfi, 39 ans, de nationalité française, un homme déjà condamné en 2005 à 15 ans de prison pour tentative d'homicide contre des policiers. François Molins, procureur de Paris, a rapidement indiqué que l'identité de l'attaquant est connue et a été vérifiée ce matin. Un homme signalé par les services belges et se prénommant Youssouf s'est rendu de lui-même dans un commissariat d'Anvers. Fin de la confusion. L'enquête se concentre donc désormais sur Karim Cherfi et sur son entourage familial, dont trois membres sont actuellement entendus par les enquêteurs. Karim Cherfi était visé par une enquête antiterroriste pour avoir manifesté son intention de tuer des policiers. Il avait été arrêté le 23 février dernier avant d'être remis en liberté. Faute de preuves suffisantes, Karim Cherfi a semblé avoir agi seul. Une perquisition a été menée à son domicile cette nuit. Il s'agit d'établir s'il a bénéficié ou pas de complicité. Surtout, un mot manuscrit où il défend Daesh a été retrouvé sur les Champs-Élysées à proximité de son corps.
Merci Franck Bongo. Bonjour Hugo Micheron.
Bonjour.
Vous êtes doctorant à l'ENS Normale Sup, spécialiste des réseaux djihadistes. Un mot donc de cette revendication de la part du groupe État islamique qui est arrivé très vite mais qui finalement à cette heure-ci pose question.
Oui, plusieurs hypothèses. La première évidemment c'est les liens avec les réseaux belges à travers cette identité qui a été avancée. Le communiqué en arabe évoque qu'il s'agit d'un combattant de l'État islamique. En réalité donc il pourrait s'agir d'une autre personne. Ça éclaire donc à la fois la dimension très préparée d'une attaque à trois jours des présidentielles par l'EI. Il y a eu plusieurs tentatives déjouées avant cela, donc vraiment cette volonté de frapper dans ce moment, ce contexte politique précis. Et d'autre part, eh bien la possibilité qu'il s'agisse en fait d'une autre personne, d'un complice ou tout simplement d'une erreur de la part de l'État islamique, ce qui montrerait aussi que cette attaque aurait pu être moins structurée qu'a priori on aurait pu le penser hier soir.
Les enquêteurs français, on le disait avec Franck, se concentrent donc sur Karim Cherfi, un homme de 39 ans, délinquant, qui passe au djihadisme, j'ai envie de dire, un profil presque typique.
Oui, alors il a ceci de particulier qu'il a 39 ans. Jusqu'ici, on avait affaire à des individus plus jeunes. En revanche, vous avez raison de mentionner que il a un parcours de délinquance, mais de droit commun. Il est passé, il a fait de la détention un peu moins de 10 années pour violence. C'est quelqu'un de ce point de vue-là qui est un profil confirmé. Il reste à savoir ce qui s'est passé en détention, puisque on le sait maintenant, le passage par la prison est souvent un moment clé dans le parcours de nombreux djihadistes qui sont passés à l'acte ou qui ont souhaité passer à l'acte.
Avec donc, on le disait, Hugo Micheron, sans doute le spectre européen de ce djihadisme, puisqu'encore une fois, la Belgique se retrouve citée dans une affaire de terrorisme.
Oui, européen, mais aussi moyen-oriental, parce qu'il faut savoir que les réseaux français et belges en Syrie et en Irak étaient confondus. On l'a vu par exemple dans les attentats du 13 novembre, c'est un commando franco-belge qui a préparé ses attaques depuis la Syrie, a coordonné en Belgique, dans la commune de Molenbeek, pour ensuite passer à l'action en France. Et depuis ce temps-là, on remarque les très grandes interactions entre Français et Belges, à la fois pour passer à l'acte en France, mais aussi en Belgique.
Les Champs-Élysées, hier soir, évidemment, le lieu n'est pas anodin. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, les Champs-Élysées sont en plus situés pas très loin du palais de l'Élysée. L'assaillant aurait tout de même pu frapper, toucher la foule et tuer un grand nombre de victimes. C'est pourtant la police qui a été visée.
Oui, cela répond à plusieurs éléments. Déjà, il y a aussi la question du timing. Ça se passe en plein débat politique. Et évidemment, de ce point de vue-là, c'est un geste politique. Le but est de non seulement de commettre un attentat, ça on le sait, contre les forces de l'ordre, donc symbolique, on touche à l'autorité de l'État, mais c'est également le but de passer un message politique, à savoir déstabiliser les élections, déstabiliser l'organisation politique française. Et ça, il faut bien le comprendre, les attentats dans cet ordre de pensée ne sont qu'un moyen. Il y a d'autres moyens et les djihadistes sont très au courant de ça. On se souvient aussi de l'attaque de Nice, évidemment, qui s'était produite le 14 juillet sur la promenade des Anglais à Nice. Donc le choix des symboles est très important. Pourquoi aussi? Parce que les djihadistes sont drogués à la visibilité médiatique. Et donc il faut faire des coups, il faut faire des coups médiatiques pour revenir sur le devant de la scène, notamment dans une période où Daesh est en recul militaire en Syrie et en Irak. Donc montrer qu'on existe encore.
Mais dès lors, ça laisse à penser à une attaque qui a été préparée, minutieusement structurée.
Probablement, pour l'instant, vous savez, à l'ordre du jour, il n'y a aucune attaque qui a été commise depuis Mohamed Merah, qui est le fait de ce qu'on appelle le loup solitaire. On a toujours constaté que des attaques ou des tentatives d'attaque déjouées ont été organisées par des réseaux de personnes eux-mêmes liées entre eux, et in fine, avec un lien plus ou moins solide avec l'organisation État islamique ou avec Al-Qaïda. Donc là, il reste à savoir ce qu'il en est pour celui-ci, mais probablement qu'il y a à minima une préparation. L'autre élément, c'est qu'aussi les djihadistes français dorénavant sont au courant des cibles à choisir. Et évidemment, les policiers de ce point de vue-là, les militaires, mais d'autres formes de d'autres cibles très symboliques reviennent systématiquement.
Les militaires, on se souvient évidemment de l'attaque au carrousel du Louvre, à Orly. Là, en revanche, on a peut-être le sentiment, dites-moi si je me trompe, mais d'attaques moins organisées en tout cas et plus rapides dans l'action, qui semble avoir été moins préparée peut-être.
Oui, en fait, ça correspond tout à fait au modèle de ce qu'on appelle le djihadisme de troisième génération, c'est-à-dire que les individus savent comment passer à l'action, savent quel type choisir, ce qu'ils appellent les cibles faciles, typiquement, voilà, des policiers en garnison comme hier soir, dans un bus, donc pas, a priori, pas prêts à essuyer des tirs, et cela dans le but d'obtenir un écho médiatique maximal, qui leur a été en partie conféré, notamment par les réactions des candidats, mais même à l'international, par exemple, par la déclaration très, très intempestive de Donald Trump, qui tout d'un coup prend la France à témoin comme étant l'exemple même d'un pays qui sombre, ce qui est très hystérisant évidemment comme rapport à cet acte.
Marseille, deux hommes arrêtés cette semaine, est-ce qu'on peut relier tout ça? Est-ce que ça s'inscrit en tout cas dans une séquence?
Oui, la séquence en fait c'est celle qui a été ouverte en janvier 2015 par les attentats de Charlie Hebdo. Ce qui se passe c'est qu'en France depuis cet été il n'y a plus d'attaques. En grande partie parce que les autorités ont réussi à craquer le code de l'application encryptée Telegram par laquelle s'organisaient les réseaux djihadistes pour commettre des attentats en France. C'était les réseaux de Rachid Kassim qui est lui-même décédé dans une frappe en février dernier. Et donc depuis, les groupes avaient été en partie démontés et systématiquement arrêtés. Là, il semble qu'ils s'organisent différemment. C'est probablement une autre filière. Donc le lien avec la Belgique est de ce point de vue-là intéressant et c'est ça qu'il va falloir découvrir dans les prochains jours.
Le moment est choisi, vous nous disiez Hugo Michron, mais quel est l'intérêt finalement pour un groupe comme l'organisation État islamique de déstabiliser politiquement? C'est pour faire quoi ensuite?
Le but direct, c'est tout simplement de déclencher les forces centrifuges qui pourraient conduire à une guerre civile. L'idée, si vous voulez, c'est de considérer qu'il faut établir un rapport de force par des attentats, mais pas que, aussi par la prédication, par le recrutement dans les quartiers français, afin tout simplement de réussir à supplanter à un moment donné un modèle considéré comme mécréant. C'est ce qui s'est passé dans certains pays du Moyen-Orient et qu'ils essayent d'exporter, et rien n'indique qu'ils réussiront désormais en Europe et notamment en France.
Une dernière réponse rapidement, s'il vous plaît. D'autres attentats, selon vous, sont-ils à craindre d'ici l'élection, le premier tour après-demain?
C'est une hypothèse qu'on ne peut pas enlever. On a vu qu'il y a plusieurs attentats qui ont été déjoués ces dernières semaines.
Franck Alexandre, justement, un mot peut-être du dispositif de sécurité qui sera déployé dimanche pour le premier tour de l'élection.
Eh bien, à l'issue du Conseil de défense, réuni ce matin autour du président Hollande, le Premier ministre Bernard Cazeneuve l'a répété, l'a martelé, rien ne doit entraver ce moment démocratique. Donc plus de 50 000 policiers et gendarmes, appuyés par 7 000 militaires de l'opération Sentinelle, seront mobilisés dimanche pour assurer la sécurité de l'élection dans les 60 000 lieux de vote, je le rappelle. Même si, comme la présidente précisé le ministre de l'Intérieur, Matthias Fekl, aucune force de sécurité armée ne peut apparaître dans les bureaux de vote. C'est la règle démocratique. Le ministère de l'Intérieur a donc fait passer des consignes au préfet. Chaque président de bureau de vote doit disposer d'un numéro d'appel direct aux forces de sécurité. Mais l'inquiétude gagne. Les policiers le font savoir. Ce matin, Céline Berton, secrétaire générale du syndicat des commissaires, indiquait les bureaux de vote étant des cibles extrêmement symboliques. Ce sera une journée de tous les dangers qui constituerait un tableau de chasse important pour une organisation terroriste.
Franck Alexandre, merci, merci à vous. Hugo Micheron, spécialiste des réseaux djihadistes, d'avoir été avec nous.
Édition spéciale sur RFI.
Et donc, on le disait, une attaque terroriste perpétrée 72 heures avant le premier tour de cette élection, en pleine émission télévisée aussi, qui réunissait tous les candidats. Guillaume Nodin, du service politique de RFI, vous êtes avec nous. Guillaume, la classe politique sous le choc qui a réagi dès hier soir lors de cette émission et encore ce matin.
Oui, l'attaque a bouleversé les agendas des candidats pour la dernière journée de campagne. François Fillon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron ont annulé leur dernier déplacement. Cela ne les a pas empêchés de modifier leur campagne, c'est le terme qu'a employé ce matin François Fillon, avec des déclarations solennelles dans leur QG de campagne. Marine Le Pen rappelle ainsi qu'elle entend expulser les fichiers S binationaux et étrangers. Elle demande par ailleurs au gouvernement de restaurer les frontières et affirme que tout a été fait pour perdre la guerre contre le terrorisme. François Fillon lui annonce qu'il maintiendra l'état d'urgence pour longtemps en cas d'élection et se propose de construire une large coalition contre l'État islamique. Le Premier ministre Bernard Cazeneuve leur a sèchement répondu il y a quelques minutes, les accusant d'avoir choisi l'outrance et la division, expliquant que, par exemple, le parti de Marine Le Pen n'avait pas voté les lois antiterroristes et que le gouvernement de François Fillon, en 2007, avait supprimé des postes de policiers. C'était quelques instants, cette déclaration de Bernard Cazeneuve, quelques instants après une déclaration d'Emmanuel Macron, qui se pose, lui, en protecteur des Français et qui rappelle les mesures qu'il entend prendre pour parvenir à les protéger. Jean-Luc Mélenchon, en revanche, n'a rien changé à son programme et participera ce soir aux apéros des Insoumis. Benoît Hamon maintient son discours devant la statue de Jean Jaurès à Carmaux. Ce matin, il a jugé sordide la surenchère politique autour de l'attaque.
Guillaume Nodin, vous restez avec nous et nous accueillons maintenant Jérôme Fourquet, directeur du département opinion publique de l'IFOP. Bonjour.
Bonjour.
Ce que tout le monde redoutait, donc finalement arrive 72 heures avant ce premier tour, évidemment, on le disait. L'événement bouleverse cette dernière journée de campagne. En quoi rebat-il les cartes ?
Écoutez, il est encore un peu tôt pour se prononcer, mais il n'est pas impossible que le climat change quand même assez singulièrement dans la toute dernière partie de cette campagne et que les enjeux de lutte contre le terrorisme qui avait rétrogradé dans la priorité des Français derrière les questions économiques et sociales.
Et qui n'a pas été un thème majeur d'ailleurs de cette campagne présidentielle.
Et qui du coup n'avait pas été un thème majeur de cette élection présidentielle parce que, Dieu merci, la France avait été à l'abri d'attaques sérieuses depuis l'été 2016. Hein. Et donc là, cette séquence, à la fois l'attentat, le projet d'attentat imminent et évité à Marseille avec l'arrestation de deux individus lourdement armés, et maintenant, cette attaque hier soir dans un lieu hautement symbolique comme les Champs-Élysées remettent bien évidemment dans les priorités des Français cette question de la menace terroriste et replacent dans le débat politique et électoral cette question de cette menace avec des répercussions électorales éventuelles. On rappellera quand même que les forfaits de Mohamed Merah en 2012 n'avaient pas eu d'incidence sur la campagne, mais ces forfaits avaient eu lieu plusieurs semaines avant le vote et avaient été analysés à l'époque comme le fait d'un loup solitaire totalement isolé et non pas comme l'annonce d'une vague d'attentats plus importants.
On va revenir sur l'incidence, sur le vote des Français eux-mêmes, mais d'abord, on en parlait, les mots choisis ce matin de la part de certains des candidats. Quel est l'enjeu pour c'est de se poser en protecteur, d'utiliser cet événement pour se donner davantage une stature de chef d'État contre la menace terroriste?
Alors il y a différentes dimensions qui peuvent être visées, vous avez raison, la dimension de protection des Français, mais aussi une dimension d'analyse et de diagnostic. Quel est l'état de la menace? A-t-on pris toutes les mesures nécessaires pour y faire face? Et est-on prêt, sur le plan démocratique, c'est-à-dire en termes de liberté individuelle et de pouvoir renforcer, donner aux forces de l'ordre, comme sur le plan diplomatique et militaire, à aller plus loin, ce qui nous avait beaucoup marqué dans les travaux qu'on a pu mener sur les enquêtes d'opinion ces deux dernières années, c'est que la société française a fait preuve d'une grande résilience vis-à-vis des vagues d'attaques successives. Le pays n'a pas sombré ni dans la guerre civile, ni dans des représailles aveugles qui auraient par exemple visé des membres de la communauté musulmane ou des lieux de culte. Mais pour autant, cette résilience de la société française, elle s'est accompagnée d'une très forte demande en matière de protection et d'adhésion à recours à des moyens très très radicaux et musclés.
Mais Jérôme Fourquet, justement, cela veut dire que désormais la prime va à celui qui incarne la force ?
En partie, un sondage que nous avons réalisé au mois de mars, donc il y a quelques semaines, indiquait que sur la question de la lutte contre le terrorisme, c'était Marine Le Pen avec 31% de citations, qui était perçue comme étant la plus crédible.
Et très qui, dès hier soir, l'a dit, le cauchemar recommence. Évidemment, les mots sont choisis, précisant la candidate du Front National que tout n'est pas fait pour mettre les gens à l'abri. Elle l'a redit encore ce matin.
Voilà. Alors, effectivement, les mots sont choisis. Il y a un autre qui m'a beaucoup marqué, qu'elle emploie très régulièrement, c'est le verbe « pulluler », hein, qui donne l'idée d'une multiplication un peu comme des métastases, hein, de ces djihadistes ou cette menace, un peu partout sur le territoire. Et c'est aussi cette idée qui va se diffuser dans le pays en disant que si les policiers font tous leurs efforts et qu'ils ont pu arrêter in extremis deux djihadistes qui devaient passer à l'acte à Marseille, eh bien, c'est quasi mission impossible. Et ce qui s'est passé aux Champs-Élysées hier soir vient, pour de nombreux Français, en apporter la démonstration.
A contrario, quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon, qui veut abolir la monarchie présidentielle, c'est peut-être lui qui a le plus à perdre ?
Alors écoutez, il faut être prudent parce que là on parle des effets éventuels, on n'a pas forcément énormément de recul historique sur ce que cela peut donner, mais si on se base sur les élections les régionales de décembre 2015 qui ont eu lieu quelques semaines après des attentats autrement plus marquant et plus sanglant que ce qui s'est passé hier, même si je ne minimise pas bien entendu ce qui s'est passé hier. À l'époque, il y avait eu une incidence électorale non négligeable, mais qui s'était soldée pour le Front National par une prime de l'ordre de 2 à 3 points. Donc il ne faut pas non plus, de mon point de vue, mais restons modestes et prudents, s'attendre à un bouleversement sans précédent ou un raz-de-marée. Néanmoins, cela, on l'a dit, va colorer d'une teinte tout à fait particulière le climat des derniers jours de la campagne.
Et donc le Front National pourrait être plus haut si je vous suis, dimanche.
Il peut y avoir, si on se base sur les données d'enquête récentes et sur ce qu'on avait constaté à l'époque en 2015, il peut y avoir éventuellement un mouvement en ce sens, mais de quelle ampleur et de quelle nature, il faut être très prudent et modeste.
Et dernière question, Jérôme Fourquet, peut-on comparer cette situation aujourd'hui à ce qui s'est passé le 21 avril 2002, où là aussi, les questions sécuritaires, les événements avaient bouleversé la campagne et on s'en souvient l'issue du vote?
Alors effectivement, à l'époque, il y avait eu un fait divers particulièrement sordide, qui est dite l'affaire Papivoise, hein, un vieil homme qui avait été tabassé. Donc l'enquête avait montré ensuite que les choses étaient un peu plus compliquées que cela. Mais là aussi, cela avait eu un fort écho. Alors il y avait plusieurs ingrédients qu'on retrouve ici, même si à l'époque c'était d'un fait divers ou du droit commun, alors que là c'est du terrorisme. D'une part, le caractère très marquant, à la fois là, une personne âgée, là, les Champs-Élysées, d'autre part, le fait que ça se produise quelques heures ou quelques jours avant le scrutin.
Et le Front National était pas aussi haut qu'il l'est aujourd'hui. Je suis obligé de vous couper. Merci beaucoup, Jérôme Fourquet, d'avoir été avec nous. Merci encore à Hugo Micheron. C'est la fin de cette édition spéciale. À la rédaction en chef, Frédéric Misselin, Joël Costi, Bruno Darroux. Restez avec nous sur RFI.